Bonsoir à tout le peuple vert, la volonté était bien là, mais les verts ont flanché d'entrée parce qu'en face il y avait un Bordeaux savoureux. Résultat, une première défaite, 3 buts à 2, la défense stéphanoise est en chantier, nous y reviendrons dans le débrief tout à l'heure. En seconde partie d'émission, nous ouvrirons un chapitre spécial Mercato. CV et Veretout sont évoqués pour renforcer l'entrejeu stéphanois. Qui peut apporter le plus à la SS? L'ancien Bordelais, justement, ou l'ancien Nantais, ou peut-être les deux, qui sait, il y a peut-être battle, ou pas du tout. Quentin Népal nous donnera son avis. Bonsoir Quentin.
Bonsoir Julien, merci à tous, merci de ton invitation une nouvelle fois.
Avec plaisir, elle va bien la Tour Eiffel?
Tout va bien à Paris, tout se passe bien.
Pas trop triste de perdre Zlatan?
Les Parisiens te diront que oui.
Et la Tour Eiffel?
Et la Tour Eiffel, bah, toujours en battle avec Zlatan, mais ça fait longtemps que ça dure.
Elle a récupéré Ben Arfa hein, quand même, mais elle ne verra sans doute jamais Johan Molo. L'ex-monégasque pourrait rester à Saint-Etienne, mais peut-il redevenir un joueur qui compte? Élément de réponse dans un instant. Dans l'actu Ligue 1, nous ferons un détour par Lyon. Un investisseur chinois a injecté 100 millions d'euros dans les caisses de l'OL. Qu'est-ce que ça peut changer concrètement? Plein de choses, sans doute. Nous y reviendrons tout à l'heure. Mais d'abord, on repart au Matmut Atlantique de Bordeaux pour le débrief de la première journée de Ligue 1. Il y avait la volonté, mais les Verts ont été surpris par des Girondins de Bordeaux réalistes et opportunistes samedi après-midi au Matmut Atlantique. Résultat, défaite. 3 buts à 2, déjà une défaite hein, pour commencer la saison, 3 buts encaissés sur coup de pied arrêté en plus. Ce mal qui rongeait la SS la saison passée brûle toujours.
Exactement Julien, on repart sur la même base que la saison dernière avec une défaite pour cette première journée. On se souvient que l'année dernière, les Verts s'étaient inclinés à Toulouse 2 buts à 1 sur coup de pied arrêté, avec beaucoup de difficultés sur ce coup de pied arrêté. On a vécu la même chose samedi contre Bordeaux avec... on tremblait à chaque fois que les Bordelais jouaient un corner ou un coup franc, donc c'est assez problématique et symptomatique aussi de nos soucis actuels qu'il va falloir très rapidement remédier, sinon on va au devant de pas mal de déconvenus. Après, on va.
Tu aimais Jacquet dans le texte.
Hein. Voilà, mais on va rester quand même optimiste parce qu'on a vu des choses intéressantes qu'on ne voyait pas sur la fin de saison dernière où on avait un jeu un petit peu statique. Là, on a vu quand même des enchaînements intéressants, donc il y a quand même quelques motifs de satisfaction sur ce match.
Et notamment l'état d'esprit, mais sur le premier but, la défense centrale est un peu lâche sur le marquage. Gaëtan Laborde en profite et ouvre le score après seulement 13 minutes de jeu. Loïc Perrin est en retard, il doit être devant le jeune attaquant, le capitaine stéphanois. On peut dire tout ce qu'on veut de bien sur Loïc Perrin, mais sur ce match, il est passé au travers.
Oui, bon là, on va pas lui jeter la pierre non plus, ça reste la pierre angulaire de notre équipe, c'est notre capitaine. Il était passé au travers lors du match amical de préparation aussi. Où
contre Lausanne.
Exactement, où les Verts étaient passé complètement au travers.
Défaite 4 buts à 1.
Voilà, et Loïc Perrin a été le premier à l'avouer d'ailleurs qu'il était pas dans son match. Samedi, il était pas dans son match, mais je pense que c'était toute l'équipe qui a vacillé. C'est dur de jeter la pierre vraiment sur lui, comme je le dis. Après, j'ai trouvé les latéraux très faibles. Théophile Catherine qui avait fait un bon match contre Athènes, match retour en Grèce. Je l'avais trouvé très intéressant, très solide. Et là, je sais pas, peut-être l'adversité déjà un peu plus élevée et je l'ai trouvé très en difficulté. Et puis on a eu ce problème déjà au bout de quelques minutes de jeu avec la blessure de notre recrue
Chekembengue,
remplacé par Poloma. Et Poloma qui a eu quand même, alors certes qui est passeur décisif sur le but d'Amouma, il a pas mal apporté offensivement, mais défensivement j'ai trouvé que c'était quand même un peu faible.
Et ce premier but, c'est un peu la fausse note de la première période, tu en parlais Quentin. Les Verts ont été plutôt intéressants dans les 45 premières minutes, à l'image d'Amouma d'ailleurs, mais ils ne s'en contentent pas, l'ancien Sochalien. Nous avons des regrets lorsqu'on prend 3 buts à l'extérieur, c'est compliqué, il aurait fallu plus de détermination pour faire mal. C'est ce qu'il a pesté à la fin du match. La SS manquait-elle d'un détonateur, notamment dans l'entrejeu, pour faire la différence?
En tout cas, elle manquait d'un finisseur, je dirais, parce que les occasions, on les a eues en première mi-temps. Moi, j'ai trouvé qu'on était solide, qu'on était offensif, qu'on a posé beaucoup de problèmes au milieu de terrain bordelais qui avait du mal à s'installer. On avait vraiment pris le dessus sur ce milieu de terrain. On a eu les occasions, on n'a pas réussi à conclure. Et ce premier but sur coup franc, sur la seule occasion de la première mi-temps bordelaise, nous a fait beaucoup, beaucoup de mal. On n'a pas réussi à s'en remettre. C'est dommage parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est tout, voilà, c'est ce qu'on marque avec Saint-Etienne, c'est-à-dire que des fois on joue très mal et on a réussi à gagner des matchs. À la fin de saison dernière, on jouait très mal, on gagnait des matchs 1-0, mais on gagnait, on repartait avec les 3 points. Là, on a plutôt bien joué, mais malheureusement, on repart avec une défaite qui aurait pu être lourde puisqu'on était mené quand même 3-0.
Et c'est un peu le mal culturel, si j'ose dire, à Saint-Etienne. Quand ça joue bien,
ça ne gagne pas, et quand ça joue très mal, ça perd.
Et ben exactement.
Ça gagne plutôt.
Voilà, on a l'impression que c'est un peu ça. Les supporters sont très critiques envers le jeu proposé la saison dernière, et ils ont raison. C'est vrai que les Stéphanois ont proposé un jeu pas très intéressant la saison dernière, plutôt défensif, avec très peu de folie, et on n'a pas forcément plaisir à les regarder jouer. Et cette année, on a senti que Galtier, en tout cas dans son discours, avait envie d'un jeu plus direct. Ça s'est vu d'ailleurs à Bordeaux avec un jeu beaucoup plus direct, beaucoup plus porté vers l'avant. Mais malheureusement, quand on s'expose autant, quand on joue autant l'offensif, on a un déséquilibre derrière qui arrive, et ça s'est vu à Bordeaux quand on s'est fait contrer, notamment sur le deuxième but où Paloma perd la balle sur une phase offensive où on est en surnombre et où il perd la balle bêtement et on se retrouve sur un contre et on prend le but.
Il est naïf, Pierre-Yves Paloma. Déjà à Athènes, il a perdu des ballons. Il est impliqué d'ailleurs sur l'occasion concédée à la 37e minute qui aurait pu être fatal à l'ASS.
Oui, c'est ça. Le problème de ce jeune joueur, c'est que maintenant qu'il est plus tout jeune, maintenant on lui accordait beaucoup de crédit parce qu'il était jeune. C'est vrai que l'année dernière, il était barré quand même par deux joueurs devant lui. Il y avait quand même pas mal il y avait un embouteillage sur le couloir gauche. Cette année, il aura sa chance puisqu'il n'y a que deux latérales gauches avec Tchekembege et lui. Mais il va falloir qu'il soit plus solide défensivement dans un premier temps, qu'il soit vraiment plus solide parce qu'offensivement, il est vraiment intéressant. Il a un jeu offensif qui est intéressant. Il apporte bien. Il a des centres qui sont très bons, mais défensivement, il doit vraiment progresser.
Tu parlais de déséquilibre. On peut aussi parler de déséquilibre, surtout au milieu de terrain, parce que Cornier n'a rien apporté, on va y revenir. Mais surtout les absences de Lemoine, suspendu, et de Brian Dabo, la recrue montpelliéraine, blessé pour plusieurs semaines puisqu'il est plâtré, on le rappelle, ont coûté très cher à l'ASS.
Alors exactement, Julien, c'est la première chose sur laquelle on pourrait revenir, c'est d'abord les blessés. C'est vrai que ça nous a coûté quand même, je pense, pas mal de points la saison dernière. Certes, on a eu une saison qui était longue, beaucoup de matchs à jouer, beaucoup de fatigue, des blessures, c'est logique, mais je trouve qu'on a eu beaucoup de blessures. C'était un point, si je me souviens bien, que j'avais soulevé dans une précédente émission où j'avais dit qu'on avait un problème de préparation physique, où on avait beaucoup de blessés, et là on a à peine joué 3 matchs et on se retrouve déjà avec plusieurs joueurs sur le carreau.
Faut-il pointer du doigt qui est le responsable? Est-ce que c'est Thierry Cotte? Est-ce que c'est Tarek Bouzabia? Est-ce que c'est Christophe Galtier?
Je pointe personne. Je suis pas dans le quotidien du club. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas quelle est la préparation. Visiblement, la préparation a été un peu différente cette année. Elle a été menée différemment pour que les joueurs soient véritablement prêts dès ce match contre cette double confrontation contre Athènes. Mais c'est vrai que en tout cas, il y a un problème très honnêtement sur les blessés. On a vu que Lyon, par exemple, l'année dernière, les 6 premiers mois avaient beaucoup de blessés. Ça leur a coûté beaucoup de points sur la première partie de saison. Sur la deuxième partie de saison, ils ont eu quasiment tous leurs joueurs à disposition et ils ont fait une très belle deuxième partie de saison. Donc si on a des blessés, forcément, ça va impacter sur les résultats.
Le milieu de terrain n'était pas à la fête, à l'image de Vincent Pajot qui était un petit peu décevant. Il a eu la balle d'égalisation en toute fin de partie, mais l'ancien Rennais n'a pas eu la réussite. Il est revenu un peu sur son drôle de match en zone mixte. On va l'écouter. Vincent Pajot, on va l'écouter dans quelques minutes. On va l'écouter dans quelques instants.
Attends que ça se règle. Voilà, on peut peut-être parler un petit peu de Vincent Pajot, justement.
Voilà, on va parler de Vincent Pajot. Il est passé à côté de son match, l'ancien Rennais.
Oui, il est passé à côté de son match. En fait, je l'ai quasiment pas vu balle au pied. Il a quasiment pas touché de ballon, ce qui est quand même anormal pour un milieu de terrain. Après, il a eu une projection vers l'avant qui était intéressante quand on avait le ballon. On l'a vu plusieurs fois dans la surface, donc il amène ce danger quand même. Ça, c'est intéressant. Mais c'est un joueur sur lequel on attend plus parce que ça va être sa deuxième saison en vert. On peut comprendre qu'il a une saison d'adaptation, mais aujourd'hui, il a besoin de confirmer. Et pour l'instant, sur ses premiers matchs, il n'est pas du tout au point et ça, c'est un réel problème au milieu de terrain.
Alors c'est le direct, bien sûr, on est dans la mi-temps verte sur RVR, 101.4 à Tarare, 101 FM à Amplepuy, 104.6 à Riorges, et on va écouter Vincent Pajot, on va rendre à César ce qui est à César.
Ouais, c'est vrai qu'on avait bien entamé ce début de match, on voulait aller les presser haut, c'est ce qu'on a fait. Après on se fait surprendre sur un coup de pied arrêté, c'est toujours des phases de jeu compliquées, et puis après c'est toujours compliqué de courir derrière le score. C'était pas mon jour, ça fait partie du foot, mais je pense avoir fait le geste juste. Après ça manque un peu plus de précision et j'aurais préféré plutôt rentrant.
Voilà, est-ce que l'ASS a manqué son début de championnat?
Après une journée, c'est difficile de dire que l'ASS a manqué son début de championnat. Elle a réussi son début de Coupe d'Europe. Et ça, c'est bien parce qu'il y avait un match quand même très très compliqué à jouer contre Athènes. avec une équipe, comme l'a dit Loïc Perrin, je crois, qui était largement capable de jouer les phases de poule. Donc c'est dire le niveau déjà de cette équipe d'Athènes. Donc on a réussi à passer. Après, on a une défaite à l'extérieur à Bordeaux, avec des motifs d'encouragement, comme on l'a dit. On revient au score. On a eu un jeu un peu plus plaisant. Ils n'ont pas manqué leur début de saison. En tout cas, il faudra vite se rattraper. On a deux matchs à domicile contre Montpellier et Toulouse. Et si on gagne les deux matchs, on pourra en tout cas vite oublier cette défaite à Bordeaux.
La frappe de Vincent Pajot à la toute fin du match, la dernière occasion, elle est signée de l'ancien Rennais, mais malheureusement, il y a ce manque de précision, c'est symptomatique du manque de réalisme des Verts sur ce match.
Et oui, voilà, on a eu plusieurs occasions. Bordeaux, ils n'en ont pas eu 40, mais ils les ont transformées. Nous, on a marqué sur corner, hein, le but de Söderlund, mais c'est vrai qu'on a eu plusieurs coups de pied arrêtés qu'on a mal tirés la plupart du temps. Pour moi, les regrets sont vraiment sur cette première mi-temps. On ne doit jamais repartir avec un but d'écart en étant mené. Alors, avec la première mi-temps qu'on fait, on est plutôt bon. Là, c'est surtout là. Et après, on revient en deuxième mi-temps. J'étais plutôt confiant à la mi-temps, même si on était mené 1-0, parce que je pensais qu'on allait prendre le dessus physiquement par rapport au Bordelais. On avait déjà deux matchs de compétition en Coupe d'Europe dans les jambes. Bordeaux n'avait fait que des matchs amicaux. Je pensais qu'on allait prendre le dessus et puis en fait on s'est fait manger sur ce début de deuxième période. Après il y a la fin de match qui est encourageante et cette frappe de Pajot qui passe juste à côté et qui aurait pu un petit peu venir donner des motifs de satisfaction en ramenant le match nul de Bordeaux, mais c'était pas le cas.
On parlait de Cornier tout à l'heure, il a perdu 50% de ses ballons,
bah ouais, mais
15 sur 30.
Le problème de Cornier, c'est que faut aussi se mettre à sa place de minute. C'est un joueur, on lui dit, dès le début de la semaine, enfin même il y a plusieurs semaines, on lui dit « on veut plus de toi, tu es sur le départ, donc cherche un autre club, cherche un autre projet, donc il joue pas les matchs. » Et puis là, il y a des blessés, il y a des blessures en cascade, donc on le propulse titulaire. Donc il faut se mettre à sa place un petit peu, et c'est de toute façon qu'il ne sera pas dans les plans du coach, que là il vient juste dépanner parce qu'il y a des blessés.
Donc, il n'est même pas dans le groupe pour le Béthar Jérusalem.
Exactement, voilà, pour le groupe du match de mercredi, il n'est pas là. Donc c'est la preuve que quand même Galtier ne compte pas sur lui, donc c'est difficile d'en attendre beaucoup. C'est vrai qu'il a été transparent sur ce match. Peut-être aussi c'est l'organisation tactique de Bordeaux qui lui a posé des soucis. On a vu que l'ensemble de l'équipe était un petit peu coupé, et Cornier a eu beaucoup de mal à se situer, mais voilà. Et c'est surtout ce qui est gênant, c'est que c'est un bon joueur, mais que je pense qu'il marche beaucoup à la confiance. On a vu aussi qu'il était souvent blessé. Là, ça y est, il a joué, il se reblesse. Après, autre chose, c'est Galtier avait décidé de mettre un match amical mardi à Wolfsburg, enfin en Autriche contre Wolfsburg, pour faire jouer les remplaçants. En soi, bonne idée, parce que c'est vrai qu'il y a des joueurs qui étaient en manque de rythme. C'était bien de les faire jouer. Mais un joueur comme Cornier, il a joué ce match, et donc il mardi. Et puis quelques jours plus tard, samedi, on lui demande de jouer un match quasiment entier à Bordeaux sous 32 degrés. Donc pour un début de saison, ça fait un peu beaucoup, ça fait deux matchs rapprochés. Donc voilà, c'est, je pense que c'est notamment ce qui explique en tout cas sa contre-performance.
Il y a un élément quand même qui est sorti du lot dans l'entrejeu stéphanois, c'est le Norvégien Ole Selnæs, encore une fois, clairvoyant, il n'a perdu que 9 ballons sur tout le match, c'est à souligner. Mais Christophe Galtier peut-il résolument faire la saison avec ce joueur de 21 ans, très jeune, en sentinelle, alors qu'il y a quand même Jérémy Clément qui est là depuis plusieurs saisons à l'AS Saint-Etienne. Jérémy Clément dont Juninho dit le plus grand bien.
Oui, j'ai vu cette interview exactement. Après, oui, moi je suis très emballé par Selnæs. Je pense que c'est un très bon recrutement. C'est un joueur qui a la vision du jeu, vraiment. Il joue vers l'avant. Ses passes sont capables de casser les lignes, véritablement. Il a une vista, il sent le jeu. Après, ce qui lui manque et ce qui lui a manqué sur la fin de saison dernière lorsqu'il a joué quelques matchs avec Saint-Etienne, c'est se mettre au niveau du championnat de France physiquement. J'ai trouvé un peu faible physiquement, voilà, sur les duels notamment. C'est quelque chose qu'il est en train de rétablir. J'ai vu des choses un peu plus intéressantes. Il doit aussi progresser dans son jeu lorsqu'il n'a pas le ballon. Hein. Jérémy Clément, là où il était fort, c'était aussi dans sa façon d'harceler le milieu de terrain. Il était toujours sur le joueur, toujours bien placé. Selnæs doit un petit peu progresser là-dessus. Sur ce jeu sans ballon, mais quand il a le ballon, c'est vrai qu'il a un toucher de balle quand même très intéressant, il va apporter beaucoup à cette équipe. Et comme tu dis, Julien, il y a Jérémy Clément quand même en doublure. Je pense que Jérémy Clément commence à avoir fait une belle carrière, commence à être un petit peu âgé, il a une grosse blessure, il a eu du mal à revenir, ça va un petit peu mieux, mais je pense que voilà, Jérémy Clément peut faire une belle doublure parce qu'il y aura quand même beaucoup de matchs à jouer, et moi je compte encore sur lui en tout cas en tant que deuxième numéro 6, mais Selnæs est un... On pourra compter sur lui, je pense qu'il va faire une belle saison.
Et un dernier mot, on parle de Selnæs et de la jeunesse. Côté bordelais, c'est un attaquant qui s'est révélé dans ce match, c'est Gaëtan Laborde. Peut-il être le nouveau Chamakh? même si c'est pas vraiment comparable.
Bah déjà, ce qui est noté, c'est qu'on a l'impression que quand une équipe joue contre Saint-Etienne, on a le don nous pour lancer ou relancer des joueurs dont on ne connaît pas le nom. En tout cas, voilà, ce jeune joueur bordelais que j'ai trouvé très intéressant, un but, une passe décisive. Après, bon, est-ce que c'était aussi la faiblesse de notre défense samedi et notre marquage sur coup franc qui explique cela? Mais non, c'est vrai qu'il a fait un très bon match. On a vu qu'à Bordeaux, Cheick Diabaté était parti, donc il va falloir qu'il trouve un attaquant. Ils ont recruté Jérémy Ménez.
Ils l'ont, leur attaquant. Oui. Il a cadré deux tirs sur ces trois.
Après, ça reste un jeune joueur, Julien, et il faut aussi qu'il prouve sur la durée. Voilà, il faut qu'il prouve sur la durée, et ça, c'est pas gagné. Mais c'est vrai qu'il a fait un bon match.
Et il y a un autre attaquant qui devrait faire des bons matchs cette saison, c'est Robert Berić. Mais l'ASS est perfectible derrière, certes, et devant aussi, il y a des promesses qui ont été entrevues toutefois en fin de match à Bordeaux. Des choix offensifs qui ont été payants de la part de Christophe Galtier. De quoi positiver malgré tout, malgré la défaite. Voilà, comme dirait Laurie, la positive attitude, elle doit être à Saint-Etienne. Avant de positiver, nous allons parler quand même de quelque chose qui fâche. 31 ballons, 12 perdus et surtout 0 tir cadré. Tel est le triste bilan de Robert Berić lors de cette première journée de Ligue 1 face aux Girondins de Bordeaux. La faute à l'inefficacité chronique de ses partenaires en première période. Et ce, malgré un très bon état d'esprit des attaquants stéphanois. Durant le premier quart d'heure, les Verts ont posé leur jeu, étaient dangereux, notamment Tanane et Amouma, mais il a manqué l'étincelle.
Oui, c'est ce que je disais en début d'émission. Voilà, c'est vraiment l'étincelle, le réalisme, le surplus pour aller encore plus loin. Berić, c'est vrai qu'il a, il touche très peu de ballons, mais faut aussi, c'est toujours pareil sur un match, et notamment en Ligue 1, on a des défenses quand même qui sont très costaudes. Pour un attaquant, pour qu'il s'impose, il faut qu'il ait des ballons. S'il n'a pas de ballons, s'il n'est pas servi correctement, forcément il va passer à côté de son match, il va avoir très peu de ballons, il ne va pas être en jambes. Berić est un joueur de surface, c'est un joueur qui a besoin d'avoir le ballon dans les pieds, c'est un joueur que vous allez retrouver dans les 6 mètres pour pousser la balle au fond du but, mais c'est parfois les buts les plus difficiles à mettre parce qu'il faut être au bon moment, au bon endroit, et lui c'est ce qu'il arrive à faire. On l'a vu à Athènes où il reçoit un très bon centre de Romain Amouma et il place la tête. Voilà, c'est vrai qu'il n'a pas été servi samedi contre Bordeaux, mais je pense quand même que c'est un grand attaquant et que si Galtier arrive à trouver une organisation offensive qui le permette de toucher un maximum de ballons dans la surface, je pense que ça sera, il va faire une belle saison lui aussi.
À l'image de Romain Amouma, Christophe Galtier n'a pas caché son amertume après la rencontre. On va l'écouter, l'entraîneur stéphanois.
Je trouve que sur la première période, on aurait mérité de marquer sur des actions assez bien construites, avec des centres, avec du petit jeu dans la surface. Malheureusement, on n'y est pas arrivé. Soit on est arrivé juste un peu en retard, soit on a buté sur un défenseur, soit on a manqué peut-être de détermination dans la surface adverse. Et en deuxième période, alors que je pensais, vu la première, je pensais qu'on allait être plus dangereux. On a fait porte ouverte avec beaucoup d'absence sur les buts que nous avons concédés, sur les fautes que nous avons pu commettre, sur le face-à-face que Stéphane a eu à faire. Et voilà, là, l'équipe s'est complètement désorganisée. Après, voilà, bah après il y a les 20 dernières minutes, les 15-20 dernières minutes où nous avons poussé, nous avons été capables de marquer. Mais malheureusement et fort logiquement, quand on encaisse 3 buts, il est très difficile de pouvoir gagner un match. Ce match me laisse beaucoup de... Un goût amer, parce que on peut rien espérer quand on a 3 buts d'écart.
Voilà, Christophe Galtier, lucide. Très bonne analyse de l'entraîneur stéphanois, Quentin.
Oui, très bonne analyse, mais comme il dit, quand on est mené 3-0, c'est difficile de revenir, mais bon, il faudra déjà trouver le remède pour ne pas être mené 3-0. C'est vrai que c'est pas normal. Alors certes, on est à l'extérieur, mais c'est pas normal d'être mené 3-0, surtout vu, comme je le disais, vu la première mi-temps qu'on propose. On a pris l'eau totalement derrière. On prend un but sur coup franc, un but sur indirect, un but sur coup franc direct. Ça fait quand même beaucoup d'enchaînement de choses qui permettent, comme le dit Galtier, voilà, de ne pas gagner. C'est impossible à gagner. On a une réaction d'orgueil à la fin, mais bon, quand on voit quand même la conjoncture du match, en tout cas sur les 70 premières minutes, difficile après C'est dur, hein, même si on revient à 3-2, d'avoir des motifs de satisfaction sur ce match. Hein. C'est vrai que je pense aussi qu'il y avait une équipe bordelaise en fin qui était un peu émoussée, comme je l'ai dit, moins prête physiquement. Et ils ont dû naturellement baisser le pied sur la fin de match. Ce qui explique, je dis bien peut-être, ce qui explique peut-être qu'on est revenu dans le match.
Il ne faut pas oublier qu'il manquait le taulier Jérémy Toulalan à Bordeaux.
En plus, il manquait Jérémy Toulalan, Menez n'était pas titulaire. Je pense qu'ils auront une belle équipe, Bordeaux. Après, est-ce que ça suffira pour se qualifier en Coupe d'Europe? Pas sûr, la saison est très longue. Il y a 38 journées, on n'en a joué qu'une. Le championnat va être long.
Est-ce que quand on voit la SS revenir, après être mené 3-0, revenir à 3-2, et peut-être en passe, si Pajot cadre sa frappe d'égaliser en toute fin de match, est-ce qu'on peut dire que la SS cultive le masochisme tactique?
Ouais, bah disons que moi ce qu'on remarque, c'est que Galtier avait reconduit le même système tactique que l'année dernière, hein, ce 4-2-3-1, qui lui est cher. Moi ce que je regrette un petit peu, c'est qu'il nous annonce le 4-4-2 depuis quand même pas mal de temps. Hein. Dans une interview dans l'équipe, il disait oui, le 4-4-2 et les changements tactiques, c'est pas de la com.
On parlait de révolution, hein, carrément.
Voilà, il l'a dit lui-même, il a dit le 4-4-2, c'est pas de la com, on va révolutionner le jeu. Le problème, c'est que s'il le fait pas maintenant, je me demande quand c'est qu'il va le faire. Hein. C'est vrai qu'il a eu quand même des matchs amicaux, alors qui n'ont pas été concluants en termes d'organisation tactique. Ça, je peux comprendre, avec des joueurs pas frais, des enchaînements, des combinaisons de joueurs qui n'étaient pas bonnes. Il a le droit de tester et ça marche pas. Mais le problème, c'est que là, il est en train de s'installer aussi dans un schéma tactique, ou en tout cas de continuer dans le même schéma tactique, et je me demande en fait quand c'est que ça va être possible.
Sur les 20 dernières minutes, on a vu un changement tactique, on a vu la SS passer à 3 derrière.
Oui.
Berich et Söderlund être associés.
Oui, mais ça
a marché.
Ça a marché, mais ça c'était un schéma tactique qu'on avait déjà vu l'année dernière. Ce que Galtier nous vend depuis la fin de saison dernière et le début de cette saison, c'est un 4-4-2, et pour l'instant on a toujours pas vu la couleur, sauf sur les premiers matchs amicaux. Donc c'est ça que je regrette un petit peu dans ces effets d'annonce, c'est qu'on est censé voir plus d'allants offensifs dans un 4-4-2 avec des joueurs qui sont complémentaires. Je sais qu'il a testé Berich et Roux qui n'étaient pas complémentaires visiblement, ce qui est possible, mais il y a peut-être d'autres combinaisons qui sont possibles avec Berich, Söderlund, Berich, Amouma, enfin je sais pas, mais en tout cas c'est dommage qu'on puisse pas mettre en place ce schéma tactique, parce que j'ai bien peur que si on met pas en place maintenant, je me demande quand c'est qu'on va le mettre en place.
Et est-ce qu'on peut éventuellement voir, par exemple, si on parle de ce 3-4-3 qu'on a pu voir en fin de match, qui a plutôt bien fonctionné, qui était assez prolifique vu que la SS a marqué 2 buts dans ce système, Berich et Söderlund associés avec en soutien un Amouma qui tourne autour d'eux?
Difficile quand même, parce que ça voudrait dire que si tu mets Berich et Söderlund en pointe avec Amouma derrière, ça veut dire que ton seul milieu de terrain, c'est Salnes. Ça fait un peu léger quand même. 3-4-3, je suis pas fan, dans le sens où quand c'est une équipe qui a la balle, c'est intéressant parce qu'il faut toujours jouer vers l'avant. C'est un schéma tactique qui oblige à toujours jouer vers l'avant. Si vous défendez en reculant dans ce schéma tactique, vous allez prendre les bandes dans le dos, vous allez forcément prendre l'eau. Là, je pense que Bordeaux était sur, c'était un moment en fin de match où on a poussé, on était présent, très, très présent offensivement, où Galtier avait fait rentrer les joueurs offensifs, donc forcément il y avait du poids. Donc c'est aussi pour ça que le schéma a marché. Je pense que, comme je l'ai dit, que Bordeaux était fatigué aussi. Après, de là à dire que c'est le schéma qui nous convient le plus, j'émets quand même pas mal de doutes, parce que c'est un schéma qu'on a testé l'année dernière et il y a 2 ans, et qui n'a pas non plus apporté toutes les satisfactions.
Un schéma en losange, est-ce que c'est crédible?
Déjà un peu plus, mais moi je reviens sur le 4-4-2. Je pense que c'est le schéma qui va nous correspondre. On a des joueurs qui sont très bons offensivement, qui sont très techniques. Je testerais bien un Berich Amouma, pourquoi pas, Amouma dans l'axe. Hein, on l'a vu qu'en fin de match, il est passé dans l'axe et c'est là où il a marqué, où il était un peu plus intéressant. Berich Söderlund, bon, j'y crois un petit peu moins, mais pourquoi pas, parce que c'est des joueurs qui ont, bon, c'est différent, mais qui ont sensiblement le même profil, qui jouent quand même pas mal tourné au but, qui ont un gros jeu de tête, un gros gabarit, donc difficile de les aligner tous les deux en pointe. Mais je pense aussi que le 4-4-2 se fondera mieux avec un joueur comme Brian Dabo au milieu de terrain, et avec une grosse amplitude, parce que le 4-4-2 oblige aussi d'avoir du milieu de terrain qui se dépense beaucoup. Et je pense que
Dabo Lemoine,
Dabo Salnes, moi je dirais même.
Carrément.
Ouais.
Apporter un petit peu plus de jeunesse.
Exactement.
Et l'option Amouma, bah, j'en ai un petit peu parlé en pointe, est une autre option qui s'offre à Christophe Galtier. À chaque fois d'ailleurs que Amouma a évolué un peu plus proche de l'attaquant de pointe, ça a fonctionné, et même des fois Amouma a joué carrément 9.
Oui, et ça a déjà arrivé qu'il le joue, et à chaque fois qu'il l'a joué, il a plutôt fait des matchs corrects. Après,
il a même parfois marqué.
Ouais, on n'est pas dans la vie du groupe, je sais pas c'est peut-être un, voilà, c'est un choix d'entraîneur de ne pas le faire jouer. Après, c'est vrai que moi, je ne le vois pas non plus jouer seul en point. Ça manquerait un petit peu de points de fixation devant. Parce qu'il n'est pas physique. Il n'est pas capable de prendre les ballons de la tête. Bon, il me fait mentir parce qu'il marque de la tête contre Bordeaux. mais voilà.
Et puis, il y a des attaquants de métier aussi.
Voilà, exactement. Mais par contre, une combinaison Berich-Mouma, ouais, ça me plairait de le voir. Ouais.
On peut considérer cette défaite comme un accident. La SS a raté son match par manque de détermination et de concentration, mais la bonne surprise est de les avoir vus réagir de la sorte. C'est ce qu'a souligné Robert Herbin, l'emblème de la SS Saint-Etienne, dans les colonnes du Progrès. Cette défaite est-elle vraiment un accident ou est-ce que c'est inquiétant? Parce que parler d'accident, c'est quand même un petit peu suffisant quand on voit les manques défensifs de la SS.
Alors, difficile à dire, parce que je pense qu'on est dans un début de saison où il y a pas mal de choses qui ont changé. On est dans une révolution d'équipe, on est dans une révolution de staff. Le club est en train de se restructurer. Comme l'a dit Galtier, ça fait 7 ans qu'il est là, il a besoin de s'entourer de nouvelles personnes. L'effectif est en train de changer, on avait beaucoup de joueurs sur contrat, beaucoup sont partis. On a quelques recrues. Voilà, on voit que ça bouge un petit peu. Ça fait pas mal d'incertitudes côté supporters, côté staff et joueurs sans doute aussi, hein, parce que c'est normal. Du coup, on s'enflamme vite et on s'inquiète vite, c'est normal aussi. Après Athènes, un match très bien géré, match retour, on gagne 1-0 avec un joli but et puis après on a géré le match, on était plutôt confiant, on était plutôt serein sur l'équipe mise en place, sur le système tactique, voilà, on avait des certitudes. Et puis voilà, on voit qu'on perd à Bordeaux dans la difficulté, on est mené 3-0, les doutes ressurgissent, on se dit est-ce qu'on a besoin de recruter? Est-ce qu'on y a des joueurs qui n'ont plus rien à faire dans l'équipe? Voilà, ça met pas mal de doutes. Donc, inquiétant. Comme je dis, si on réagit vite à domicile, on aura déjà oublié cette défaite à Bordeaux.
Est-ce qu'on peut considérer que la blessure de Cheikh Mbengue, la recrue partie du Stade Rennais à l'intersaison, partie libre, est un tournant du match? Il est blessé musculairement, donc ça veut dire qu'il est absent pour 3-4 semaines.
Ouais, exactement. En plus, il fait, bon, c'est difficile à dire aussi, il fait un bon début de match, hein. Il joue quoi, 12-15 minutes. Sur les 12-15 minutes où on l'a vu, il était présent offensivement. Ça correspondait avec la période où Saint-Etienne était vraiment présent et prenait le dessus sur cette équipe de Bordeaux. Il s'est blessé. C'est dommage. En plus, à Athènes, on perd aussi Brian Dabo au bout de quelques minutes. On a un petit peu la poisse avec nos recrues. C'est dommage de perdre des joueurs aussi rapidement. Et pour des longues durées à chaque fois, hein, 4-5 semaines. Galtier a voulu un effectif cette année un peu plus restreint, ce qui se comprend aussi. L'année dernière, il avait un effectif pléthorique avec beaucoup de joueurs parce qu'il y avait beaucoup de matchs à jouer. Mais il s'est rendu compte que finalement, d'avoir un effectif conséquent, bah, ça apportait pas toujours toutes les garanties. Là, il va avoir un effectif plus restreint. On voit qu'on commence à avoir des blessés. Peut-être ça permettra à des jeunes joueurs de jouer parce que l'année dernière, on avait des postes qui étaient triplés. Cette année, on a des postes qui sont seulement doublés. Donc on n'est pas à l'abri de blessures et le mercato, il reste 2 semaines, il y a des matchs à jouer d'ici là, on n'est pas à l'abri de nouvelles blessures, on aura peut-être des recrues qui ne sont pas encore prêtes, pas installées dans le système tactique.
Voilà. Et il reste 2 semaines et il y a encore des contacts avec d'autres joueurs, donc l'effectif a encore le temps de prendre de l'ampleur d'ici là.
Voilà, c'est ça, mais l'effectif a le temps de prendre de l'ampleur, mais il y a des joueurs qui doivent aussi partir, qui sont à l'instant de départ, on y reviendra je pense, mais ça implique aussi que si on a des recrues, elles vont devoir se fondre dans le collectif, certainement elles ne sont pas prêtes ou elles vont devoir s'adapter, donc c'est quand même encore quelques incertitudes, mais en début de saison c'est normal.
La profondeur de banc est souvent une clé dans une saison longue comme celle qui se profile à l'AS Saint-Etienne. Ça tombe bien, Galtier, pour accueillir de nouvelles têtes, on en parle tout de suite. C'est la page Mercato de cette mi-temps verte. Il est 20h29. Et crois pas si bien dire, Maître Gims, hein. Je vais changer, c'est ce que beaucoup de joueurs se disent dans cette période de mercato. Depuis le départ de Mustapha Bayalsal à l'Arabie au Qatar pour 1 million d'euros, le recrutement d'un défenseur central reste une priorité à l'AS Saint-Etienne. L'arrivée de Marcel Tisserand serait en bonne voie, selon certaines sources, peut-être pour la fin de la semaine, d'après nos confrères de Foot Mercato ou de BFM TV. Mais les dirigeants s'activent aussi pour renforcer l'entrejeu. Jordan Vertu fait partie des pistes crédibles, mais après une saison moyenne à Aston Villa, l'ancien Nantais pourrait revenir en Ligue 1. Que peut-il apporter concrètement à Christophe Galtier, Jordan Vertu?
Alors déjà, si on arrive à attirer ce joueur, je pense que c'est plutôt positif. Hein. C'est un joueur qui était recruté pour plus de 10 millions d'euros, je crois, par Aston Villa à Nantes, lorsqu'il joue à Nantes, formé à Nantes. Après, je suis moins critique. Je pense qu'il sort d'une saison compliqué avec Aston Villa, mais je pense que c'est l'ensemble de l'équipe qui a été compliquée parce qu'ils ont vécu une saison vraiment difficile avec cette descente en deuxième division anglaise.
Il a joué plus d'une vingtaine de matchs quand même.
Voilà, c'est déjà pas mal. Et puis de ce que j'ai pu lire, surtout sur des forums, notamment du côté des supporters anglais, ils avaient l'air plutôt satisfaits de Veretout et surtout déçus s'il part. Donc c'est plutôt une preuve d'un joueur qui a quand même pas mal de qualité et qui apporterait un impact au milieu qui nous manque peut-être. Un impact là aussi où, bon, je vais être un peu critique, mais je pense qu'un impact que Fabien Lemoine ne nous apporte plus trop de maintenant, c'est bien dommage parce que c'était il y a deux ans un de nos piliers de notre équipe et qui apportait vraiment de l'impact au milieu. Et je trouve qu'il ne retrouve pas ses talents, cet impact physique, et Veretout est capable d'apporter ça.
En même temps, petite remarque, Fabien Lemoine, sans faire de stigmatisation, loin de là, ce serait très malvenu de ma part, il prend de l'âge.
Et oui.
Alors que Jordan Veretout a 7 ans d'écart avec Fabien Lemoine, voilà. C'est pas rien.
Exactement. Bon, après, Lemoine aussi, il a eu une saison tronquée la saison dernière avec une blessure dès la préparation qu'il a peut-être mis en dedans après sur l'ensemble de la saison. Mais Veretout serait vraiment une bonne pioche. J'espère que ça va se conclure. Après, je suis toujours très prudent sur les transferts qu'on fait. Hein. On dit toujours c'est une super recrue, puis finalement ça n'apporte rien. Des fois, il y a des joueurs qu'on n'attend pas, qu'on recrute, on se dit on sait pas qui c'est, puis finalement on en est plutôt satisfait. Donc voilà, on va rester mesuré, on va attendre, mais si Veretout vient, ça sera quand même une belle pioche parce que c'est un joueur avec du potentiel, et s'il a signé en Angleterre, bon, comme beaucoup de joueurs du championnat de France signent en Angleterre, c'est vrai, mais s'il a signé en Angleterre, c'est pas pour rien.
Je l'ai rencontré, il connaît ma position, a indiqué l'entraîneur stéphanois Christophe Galtier à propos de Jordan Veretout. Il laisse planer le doute complètement. Ouais. L'arrivée de l'international espoir, 23 ans, on le rappelle, dépend clairement de la qualification potentielle des Verts pour la phase de poule de l'Europa League.
Ouais, clairement, après, difficile aussi là-dessus de faire des suppositions. Est-ce qu'on peut anticiper une qualification contre cette équipe de Jérusalem? Après, si on ne se qualifie pas, on a vu Lille qui avait tout anticipé avec son recrutement, puis finalement, patatras, ils sont éliminés dès les barrages.
Par un club azéri.
Le troisième tour. Enfin, un club azéri inconnu, donc... Bon, voilà, difficile de tirer des plans, je comprends Galtier. Après, le problème, c'est qu'après le match retour, il restera que très peu de jours pour finaliser les transferts. Je comprends aussi, ça fait quand même 6 matchs en plus à jouer. Donc forcément, vous n'avez pas besoin du même nombre de joueurs en jouant une fois toutes les semaines ou en jouant une fois tous les 4 jours. Donc ça se comprend aussi que Galtier temporise. Et puis aussi, c'est le jeu de la langue de bois, des transferts, de pas tout révéler et de sortir des joueurs au dernier moment.
On se souvient de sa dernière saison à Nantes, à Jordan Veretout. C'était la meilleure de sa carrière, incontestablement. 31 matchs, 7 buts, ce qui pour un milieu relayeur, 7 buts, c'est quand même pas mal. D'ailleurs, il joue toujours entre 25 et 30 matchs en moyenne depuis 4 ans, hein, Jordan Veretout. Donc ça montre quand même le potentiel du garçon. Et c'est un gage de sécurité.
Oui, c'est un joueur voilà, avec de la sécurité, un joueur physique qui semble, enfin, je l'espère, j'ai l'impression, qu'il pas très souvent blessé, hein, sur lequel on peut compter, qui apporte de...
On touche du bois dans le studio d'Hervé.
Voilà, j'espère que s'il signe, il ne fera pas comme Mbengue ou comme Dabo blessé au bout de quelques jours. Enfin bon, on va voir. C'est comme je le dis, c'est pas parce qu'un joueur arrive et qu'on dit que c'est un bon joueur que ça se vérifie. Il faut du temps, il faut de l'investissement, il faut s'adapter à un environnement, à un club, à un schéma tactique. Des fois ça prend, des fois ça prend pas. Donc moi je suis toujours très prudent sur les transferts et sur les joueurs qu'on recrute. J'attends pour juger, je juge sur pièce et sur les matchs.
Plusieurs tweetos se sont déjà enflammés sur le compte Twitter, non pas de Jordan Veretout, mais de la compagne du joueur, Sabrina Merlos, pour ne pas la nommer. On peut y lire, je cite, « Geoffroy Guichard sera debout avec Jordan pour certains ». C'est donc à qui Jordan Veretout portera le maillot vert cette saison.
Ouais, là pareil, difficile de savoir si sa femme, elle joue ou pas un double jeu. Si
elle retweet tout. Hein.
Ouais, elle retweet tout. Alors on ne sait pas si c'est fiable ou si c'est pour jouer avec les supporters, pour jouer avec les nerfs des supporters. Difficile de savoir. En tout cas, je pense que c'est un joueur qui va correspondre aux valeurs de Saint-Etienne parce que c'est un joueur vraiment qui se bat sur le terrain et je pense que ça peut coller avec les valeurs du club.
Pourtant, la SS doit encore se qualifier, je le répète, pour les poules de l'Europa League pour éventuellement entériner ce transfert. Mais ce qui est d'autant plus fou, c'est que Jordan Veretout, il a un statut international à faire valoir à la SS Saint-Etienne. La SS n'était pas pourtant partie sur ce calibre de joueur.
Et oui, exactement, c'est vrai que c'est un peu surprenant. Moi aussi, quand j'ai vu la source, quand j'ai vu ce nom sortir, je ne m'attendais pas à ce joueur-là. C'est vrai que je pensais qu'il était recruté. Il avait failli signer à Marseille en début de mercato. Notamment, apparemment, les dirigeants marseillais l'attendaient à l'aéroport. Il n'est jamais arrivé. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il a peut-être eu peur d'aller signer à Marseille.
Dans un bourbier, on peut le dire.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Là.
Le club étant en vente, on le rappelle.
Voilà, donc ça fait un peu peur pour un joueur d'aller signer à Marseille. Ça se comprend en ce moment. Voilà, je pense que si Saint-Etienne arrive à recruter Veretout, ça sera un gros coup. Mais comme je l'ai dit, il faudra juger sur le terrain.
Une autre vieille connaissance de la Ligue 1 est présentée comme un plan B en cas d'échec des Verts dans l'opération qualification pour les phases de poule de l'Europa League. Mais ça pourrait être beaucoup plus qu'un plan B. Il s'agit d'Henri Sévé, l'ancien Bordelais. Tiens. Aujourd'hui, à Newcastle, il ne fait pas du tout partie des plans de Rafael Benitez, l'ancien de Liverpool et du Real Madrid. Vu le profil du joueur, est-ce que c'est vraiment un plan B ou est-ce que ça doit être plus que ça ?
Ah, je pense que si vraiment la piste est avérée, je pense que dans l'esprit des dirigeants de Christophe Galtier, ça sera plus qu'un plan B. Hein. Parce que, bon, après, je connais pas énormément ce joueur parce que je regardais pas beaucoup les matchs de Bordeaux.
Profil plus offensif.
Profil plus offensif. Après, je sais qu'il était très apprécié du côté de Bordeaux. Son départ a fait voilà, le supporter bordelais était un peu déçu de son départ, mais lui aussi, il a été tenté par l'Angleterre. Une nouvelle fois, comme beaucoup de joueurs, sans réussite. Ça, c'est vraiment aussi un point à souligner, c'est-à-dire que souvent les joueurs...
Et ça a beaucoup fait parler parce qu'il était capitaine.
Et oui, il était capitaine de Bordeaux, en plus il est parti en pleine saison. Donc après, alors ce qu'il faut savoir avec Henri Sévé, c'est qu'il a, il a connu une grosse blessure. Donc il a eu du mal à revenir, hein, d'après les Bordelais, ce que j'ai pu lire, il a eu du mal à revenir après sa grosse blessure, les ligaments croisés. Ce qui fait peur aussi avec ce joueur, ce qui inquiète, et Galtier l'a d'ailleurs souligné, c'est qu'il serait sans doute à court de forme. Parce qu'il n'a pas beaucoup joué l'année dernière avec Newcastle, il n'a pas eu la confiance d'entraîneur, donc il reste que quasiment 6 mois sans avoir joué, donc c'est quand même beaucoup.
Mais il a un avantage, c'est sa polyvalence qui pourrait permettre à Christophe Galtier d'avoir des alternatives tactiques.
Ça c'est vrai qu'il c'est un joueur polyvalent, et en plus on sait que Christophe Galtier apprécie les joueurs avec des profils souvent polyvalents. Ça c'est il apprécie beaucoup. Donc oui, après c'est pareil, si on le recrute, il va falloir le préparer, il va sans doute avoir besoin de temps, donc ça veut dire qu'on va pas le voir tout de suite, il va falloir qu'il s'adapte à un nouvel environnement. Donc j'ai peur que ce soit un investissement, mais qu'il soit à la pleine possession de ses moyens pas avant le mois de novembre, hein, peut-être. Hein. Donc, mais en tout cas, oui, si Saint-Etienne arrive à recruter Verit ou Sévé, ça sera des joueurs de calibre qu'on n'aurait certainement pas espéré en début de mercato.
Et en plus, Henri Sévé est lui aussi pisté par l'Olympique de Marseille. Ça veut dire que si Sévé et Vertu venaient à signer à l'AS Saint-Etienne, les Verts ferait une razzia sur ouais. Les pistes de l'OM.
Bah, ça prouve aussi que l'OM n'est plus un club qui attire les joueurs. À une époque, beaucoup de joueurs avaient le rêve et l'envie de signer à Marseille.
C'est
et
la
c'est
conjoncture du club phocéen.
Oui, je pense, ouais, clairement. Clairement. Puis c'est tellement un contexte particulier dans ce club où vous avez la pression à chaque instant par les supporters, par les dirigeants. Il y a une ambiance particulière où on est sans cesse dans l'attente des résultats. Une pression constante, et je pense qu'il doit peser sur les joueurs. Regardez au Vélodrome, ils n'ont pas gagné un match la saison dernière quasiment. Donc je pense que ça doit, avant de signer, les joueurs doivent réfléchir quand même.
Et Henri Sévé, il y a un petit argument aussi qui pourrait faire un petit peu grincer des dents Roland Romillet et Bernard Caiezo, c'est son salaire. Il perçoit aujourd'hui 200 000 euros par mois à Newcastle. Et l'ASS serait quand même prête à prendre en charge environ 50%
oui, voilà,
du salaire d'Henri Sévé.
C'est ce que j'allais dire, c'est que normalement on est censé, nous, à Saint-Etienne, avoir un salary cap. Donc je sais pas.
Ça veut dire que Sévé serait considéré comme un top player.
Un top player dans l'effectif, ouais. Mais moi, pour un joueur revenant d'Angleterre qui était vendu à 10 millions d'euros la saison dernière, je sais plus le montant du transfert, mais ça devait être quand même assez élevé. Ça serait logique aussi qu'il fasse partie des. Puis ça lui permettrait aussi de venir dans des conditions. C'est aussi ça la loi des transferts, hein, la loi du mercato. Hein, quand on veut attirer des joueurs, ça passe par. On lui dit, tu vas avoir le plus gros salaire du club. Ça incite aussi le joueur à avoir envie de venir et à avoir envie de faire une belle saison dans le club où il est.
Et un petit mot sur Marcel Tisserand, on a un petit peu de temps. Marcel Tisserand, c'est un défenseur jeune, international espoir également. Il a brillé quand il est passé par Toulouse. Là, malheureusement, pour lui, Leonardo Jardim ne le veut pas. Il est d'accord pour le laisser partir. L'ASS voudrait l'avoir en prêt avec option d'achat. Monaco voudrait un transfert sec, mais pourrait lâcher du lest.
Oui, d'après les dernières informations qu'on peut trouver sur Internet, un accord serait proche. Alors par contre, j'ai aucune idée de quel sera le type de transfert, si ce sera un transfert sec ou alors un prêt avec option d'achat. Ça, je ne sais pas. Tisseron est un joueur lui aussi au profil polyvalent. Comme je disais, Galtier apprécie. Il peut jouer un petit peu tous les postes de la défense, donc ça, c'est intéressant. C'est une alternative crédible à Pogba, voire même peut-être prendre la place de Pogba, parce qu'on a vu que Florentin Pogba n'apportait pas toujours les garanties nécessaires en défense.
Même s'il fait un début de saison correct.
Oui, il fait un début de saison plutôt correct, hein. Il fait tard les critiques, moi je trouve. Après, c'est vrai qu'il a parfois tendance à passer au travers, ça lui arrive, et bon, c'est bien dommage. Donc c'est vrai qu'il y a besoin en tout cas de recruter depuis le départ de Bayelsa. On a des jeunes qui poussent derrière, hein, Karamoko qui a une saison blanche après une grosse blessure, mais qui revient bien. Donc Tisserand en tout cas, s'il vient, ça serait une bonne recrue, même si je temporise un petit peu là-dessus. Il a fait une belle saison à Toulouse. Alors c'est vrai que si on s'arrête sur la fin de saison avec l'arrivée de Duprat, où ils ont réussi à maintenir Toulouse, ils ont encaissé très peu de buts, donc là oui, on peut dire que il fait partie des bonnes défenses de Ligue 1 sur la fin de saison. Après, n'oublions pas que Toulouse était relégable quasiment trois quarts de la saison, qu'ils ont forcément encaissé beaucoup de buts et que Tisserand était dans cette défense là donc voilà, relativisons un petit peu, même si je pense que c'est un joueur d'avenir, comme tu le disais, en équipe de France espoir, donc ça sera quand même une bonne recrue, je pense.
Et l'autre dossier du mercato à Saint-Etienne concerne Johan Molo, annoncé partant après son retour de prêt de Russie. L'ancien monégasque pourrait finalement rester à la case départ. Comme dirait Zao. En tout cas, on l'espère pour lui que c'est un retour à la case départ. Ça pourrait bien être le titre de son histoire tumultueuse à Saint-Etienne. Après un prêt d'1 an en Russie, l'ancien joueur de Monaco était annoncé indésirable sur le départ, faute d'offre. Celui qui a participé à la conquête de la Coupe de la Ligue sous Galtier en 2013, il faut le rappeler, pourrait bien rester dans le forêt. C'est une chance peut-être pour Johan Molo.
Oui,
de rester à la SS éventuellement.
Oui, alors je doute quand même de ces déclarations, moi, de Christophe Galtier, parce que il a toujours.
Johan est dans l'effectif, je compte sur lui. Nous verrons ce qui se passe d'ici à la fin du mercato.
Oui, c'est ce qu'il a dit. Hein, mais après, c'est toujours la langue de bois de Christophe Galtier. Hein. Je pense que Molo n'entre pas dans les plans A de Christophe Galtier. Moi, j'ai un peu de mal avec ce joueur. Enfin, il me pose problème parce que c'est vrai qu'il a du potentiel, il a du talent, mais des fois ça fait pas tout. Il faut aussi en avoir un petit peu dans la casquette, un petit peu, hein, comme on dit. Et des fois il a des absences, c'est dommage. Après, je trouve aussi c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Il bénéficie d'une cote de popularité assez incroyable chez les supporters de Saint-Etienne.
Parce qu'il a un potentiel, Johan Molo, mais c'est le prototype même du joueur agaçant, c'est-à-dire qu'il peut péter un câble à tout moment.
Exactement. Et puis bon, ok, c'est un joueur avec du potentiel. Ça, tout le monde l'a remarqué, mais en attendant, le potentiel, il a quand même eu sa chance sur le début à Saint-Etienne. Et ça n'a jamais non plus été un grand joueur. Ok, Galtier lui a rapidement plus fait confiance, ça c'est clair, il faut être honnête là-dessus, mais c'est peut-être aussi parce que d'autres joueurs avaient pris le dessus. On n'est pas non plus dans les coulisses du club, on ne sait pas comment il se comporte, on ne sait pas comment il est, voilà, il y a peut-être d'autres choses qui rentrent à part le sportif, mais c'est vrai qu'il bénéficie d'une cote de popularité, moi, qui m'impressionne pour un joueur qui finalement, certes, a du potentiel, mais pour qui je trouve, enfin voilà, il est pas non plus, il est très technique certes, mais voilà, il est pas non plus fulgurant. Et
il a pourtant montré des choses en 2012-2013 lors de la deuxième partie de saison et
ben, ça a duré 6 mois.
Et lors du premier semestre de la saison suivante.
Oui, voilà, bon, c'était quand même assez rapide, assez court, un petit peu comme dans tous les clubs où il est passé. Il a toujours fait des bonnes premières saisons, puis après il s'est éteint au fil du temps. Faut pas oublier qu'il ressort d'un prêt d'1 an en Russie. Si vraiment Molo avait fait une super saison en Russie, je pense que le club se serait arrangé pour l'acheter, hein, pour payer le prêt, hein. Oui. Là, pour finir par l'acheter, ce qui n'est pas le cas, parce que je pense que le club aurait pas non plus été difficile pour le vendre pour une grosse somme, et ce qui n'a pas été le cas. Donc c'est qu'à mon avis, j'ai pas suivi le championnat russe, mais je pense que Molo n'a pas non plus fait une grande saison en Russie. Donc voilà, moi, si Molo part, c'est pas méchant, mais en tout cas, je pense qu'il y a d'autres joueurs qui sont largement meilleurs que lui.
Alors aujourd'hui, il est un joueur créatif supplémentaire dans l'effectif de Christophe Galtier. Il n'est pas dans le groupe pour le déplacement à Jérusalem pour l'Europa League, pour le barrage aller. Mais à quel poste Christophe Galtier doit-il l'utiliser s'il compte vraiment sur lui, comme il le dit?
Bah déjà, avant d'évoquer son poste, il faut évoquer, comme on le disait tout à l'heure, les blessures. C'est vrai que si on a une recrudescence de blessures, c'est un peu comme le cas Cornier, un joueur qui était censé ne pas jouer, puis finalement qui se retrouve titulaire pour un match de championnat parce qu'on a des blessés. Là, c'est le cas, ça peut être le cas avec Nmolo, hein, parce qu'on voit sur les côtés, on a Tanan et Amouma, pour l'instant, qui sont les deux titulaires depuis trois matchs. Il suffit qu'il y en ait un des deux qui se blesse. Bon, on a Monet Paquet, mais c'est vrai qu'Amouma pourrait vite se retrouver de nouveau dans le groupe, en tout cas. Alors après, une nouvelle fois, est-ce qu'il est meilleur ailier numéro 10? C'était des débats qu'on avait déjà à l'époque quand il était bien installé dans l'effectif et que Galtier comptait sur lui.
Il avait montré des bonnes choses quand il était numéro 10 d'ailleurs, parce que Christophe Galtier l'a testé dans ce poste-là. Malheureusement, pas suffisamment aux yeux de certains, mais quand il a joué numéro 10, bizarrement, il s'est passé quelque chose.
Ouais, alors je crois que à Wolfsburg, le match amical, il a joué plutôt ailier, parce que Cornier occupait ce poste de numéro 10.
Il a obtenu 5 corners.
Oui, il a obtenu 5 corners. Après, j'ai pas regardé le match, hein, mais dans les commentaires qu'on a pu voir, il a pas non plus fait un grand match.
Non, c'est sûr.
Voilà, hein, il a pas. Il
mais
a pas
Christophe Galtier a annoncé qu'il avait fait un match intéressant dans l'esprit.
Oui, bon, c'est déjà ça. Mais voilà, je pense que il reste 2 semaines. Je pense que le mercato va s'accélérer comme d'habitude sur les derniers jours, et je pense que Molo partira sur les derniers jours. Parce que à moins de blessures importantes dans l'effectif, je vois pas comment Molo pourrait revenir dans l'équipe de Christophe Galtier. Alors, ça serait une grosse surprise quand même.
Et d'ailleurs, Roland Romeyer, lui, contrairement à ce qu'a pu annoncer Christophe Galtier dans la presse, a dit qu'il y avait des joueurs sur le départ, parmi eux, Johan Molo.
Ah, mais il s'en est pas caché, hein. Ouais, il n'hésite pas, le président. Mais c'est la loi du football, hein. On peut toujours être gêné par rapport à ça, dire bon, bah voilà, t'as fait 2-3 ans chez nous, on veut plus de toi, passe au suivant. Mais bon, c'est la loi du football. Johan Molo a fait son temps, il sort d'un prêt d'un an. Regardez les joueurs qui sortent d'un prêt d'un an dans un club et qui reviennent dans le club dans lequel ils sont. C'est rare qu'il fasse une grande saison derrière, hein. J'en connais pas beaucoup, hein.
Son avenir risque de se jouer en fait à la première offre venante.
Oui, je pense aussi, enfin, la première offre intéressante. Après, il y a quand même pour moi un malaise, quelque chose que je remarque qui est quand même inquiétant sur les joueurs qui sont sur le départ, Cornier, Molo, c'est que en fait ils ont pas d'offre. Et ça, c'est quand même symptomatique de...
Cornier a refusé un club de MLS.
Enfin voilà, un club du championnat américain, non, c'est pas non plus une offre. Voilà, c'est un club d'un petit championnat. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est la faiblesse de... Enfin, est-ce que ça explique pas aussi la faiblesse de ces joueurs-là? Enfin, des joueurs quand même qu'on pensait, Cornier, Molo, il y a 2-3 ans, qu'on pensait quand même avec du potentiel. Cornier, souvenez-vous, on l'a acheté plus de 3 millions d'euros à Lorient. Hein. Mais c'est des joueurs aujourd'hui qui n'ont pas d'offre. Donc c'est inquiétant sur leur niveau et surtout dans l'esprit des autres clubs du niveau qu'ils ont, quoi. Donc c'est vrai que ça bloque du coup les arrivées d'autres joueurs, visiblement.
Et on a l'impression que Johan Molo, d'ailleurs, sur son rôle au sein d'un club, il aurait envie peut-être d'être placé en ligne de mire, un peu à l'image d'un Ben Arfa, à Nice. Et quand on vient te faire part concrètement d'un projet et qu'on te dit que tu en seras l'un des piliers, c'est légèrement différent. C'est pas le discours qu'on lui a tenu à Saint-Etienne. Par contre, quand Samara est arrivé, il a dit « Ok, je signe direct ». Et aujourd'hui, il se retrouve un petit peu dans l'expectative, Johan Molo. Mais... quel club en Ligue 1 serait susceptible de lui donner les clés du jeu?
Je pense que si un club s'était positionné, ce serait déjà fait. Parce que voilà, tout le monde sait, le club s'en cache pas, et je pense que son agent aussi travaille, parce qu'il voit bien que sinon il va finir la saison en CFA. Donc je pense que l'agent de Molo doit travailler pour lui trouver un club, mais visiblement en Ligue 1, en tout cas, personne ne se bouge. Donc c'est aussi peut-être que personne ne le veut. Alors après, on n'est pas dans les coulisses. Comme je disais, ça peut s'accélérer sur les 2-3 derniers jours. Il y a un club qui peut se manifester, on va le brader, parce que l'idée aussi, c'est qu'il est bientôt en fin de contrat. Donc c'est aussi de récupérer un petit peu d'argent, ce qui est compréhensible, franchement je sais pas où il peut partir, à part de nouveau la Russie, peut-être, où il est un peu connu désormais, dans un autre club russe, ou alors peut-être un retour à Caen, son club formateur, je sais pas. Franchement, je pense que ça jouera sur les derniers jours du mercato.
Le mercato à Lyon, ça ne se passe pas que sur le terrain, ça se passe aussi dans les bureaux. Un investisseur chinois vient d'injecter 100 millions d'euros dans les caisses, mais en clair, qu'est-ce que ça va changer? C'est le thème de l'actu Ligue 1. Accélérer l'ambition internationale, c'est par ces termes que Jean-Michel Aulas a acté l'entrée d'un fonds d'investissement chinois dans le capital de l'OL Group. C'est un palier de plus dans le développement de l'Olympique lyonnais. De quoi soulager un président Aulas qui ne cesse depuis plusieurs mois de se plaindre de la concurrence déloyale d'un Paris Saint-Germain impérial économiquement et sportivement. Quentin Despal, qu'est-ce que ça t'inspire ?
Qu'est-ce que ça m'inspire ? Déjà, première chose, faut comprendre que c'est un fonctionnement totalement différent de celui du PSG. Le PSG fonctionne sur un système qui est l'investissement du Qatar Authority, et qui en fait est le financement finalement de l'État du Qatar. D'ailleurs, ce qu'il a fallu faire, c'est que le PSG disposait de fonds qui n'étaient pas directement sur le club, mais qui étaient entreposés, entre guillemets, en tout cas qui étaient injectés par le Qatar. Donc, ce qui a posé des problèmes au début avec la DNCG et des problèmes de recrutement, puisque le club n'appartenait, enfin, puisque pardon, l'argent n'appartenait pas concrètement au club. Donc, ça, c'est la première chose. Lyon, c'est différent, puisque Lyon a un capital qui fonctionne totalement différemment. Avec un capital donc investi en bourse déjà, ça c'est quand même assez unique pour un club.
C'est unique en France.
Voilà, c'est unique en France. Donc c'est un investisseur qui est minoritaire, qui investit 100 millions d'euros.
Voilà. À hauteur de 20%.
Voilà, 20%, je cherchais le chiffre, merci Julien. Donc c'est minoritaire, hein, 20%, c'est pas non plus énorme. Après, qu'est-ce que ça m'inspire? Alors, il y a le double discours de Jean-Michel Aulas qui est. Je veux rivaliser avec le Paris Saint-Germain parce que je veux avoir des moyens, parce que le championnat de France sinon est trop déséquilibré. Certes, ça s'entend. Après, est-ce qu'avec 100 000 euros, les Chinois, ça va apporter du recrutement et des joueurs de talent, de classe supérieure en plus dans le club? Moi, j'en doute. Hein. 100 millions d'euros, c'est pas non plus. Enfin, dans un budget de fonctionnement de club, c'est pas non plus énorme. Et ça investit, c'est un actionnaire minoritaire. Les Chinois, ils viennent aussi pour, faut être honnête, parce que c'est le business, ils viennent pour chercher de l'argent. Si le club, pour une raison ou une autre, s'écroule sportivement et financièrement, les Chinois, ils n'auront pas de scrupules à se retirer, parce que à un moment donné, c'est l'argent qui compte. Et quand on voit que l'argent ne rentre pas, ben, on va investir dans un autre domaine qui est plus rentable. Donc,
d'autant
voilà.
Qu'en plus, IDG Capital Partners, c'est le nom de ce fonds d'investissement. Investit donc à hauteur de 20% dans le capital de l'OL, mais n'officie pas que dans le monde du sport. Hein. Il y a la téléphonie mobile,
voilà,
plein de domaines. Hein. Le tourisme également, la santé.
C'est ça, donc c'est pas le premier club qui investit dans... Enfin, c'est pas le premier actionnaire étranger qui investit dans un club. Ça se fait beaucoup désormais, hein. C'est le football moderne, que ça plaise ou non. Mais après, on l'a vu... alors c'est vrai que c'est des Chinois, donc c'est peut-être un petit peu différent. On voit qu'il y a des clubs anglais aussi qui ont des actionnaires chinois, je crois bien. Après, on a plus connu ça, nous, avec... Enfin, en tout cas, nous, en France et aussi en Espagne, avec le Qatar, avec les Émirats Arabes Unis qui investissent. On a vu que ça, voilà, là où ça me pose plus de questions, c'est quand je dis voilà, que quand le sportif ne suit pas ou que c'est moins rentable. On l'a vu avec un club comme Malaga. Malaga qui avait été investi, je crois, par des actionnaires étrangers.
Qatariens,
voilà. Et bah, du coup, le club a eu de grosses difficultés derrière financières parce qu'ils ont fini par se retirer. Donc voilà, ça pose quand même pas mal de questions. Après, c'est tout à fait le double discours de Jean-Michel Aulas qui veut rivaliser avec le PSG. Mais bon, voilà, 100 millions d'euros, je pense que c'est plus une stratégie financière qu'une réelle stratégie sportive. En tout cas, on va attendre pour voir ça.
Alors d'ailleurs, tu l'as dit très bien. L'impact sur le sportif, sur les équipes Fagnon masculines et féminines n'aura pas lieu tout de suite. Jean-Michel Aulas évoque plutôt un impact sur le refinancement du Stade des Lumières et du Parc OL dans l'équipe. Ça réduit notre endettement à plus du tiers, voilà. Ce fonds d'investissement. Ça va nous redonner une possibilité de discussion sans pareil avec les banques. Le refinancement va s'effectuer plus rapidement à des conditions améliorées d'ici fin 2016 ou début 2017. Mais pour le moment, le patron de l'OL ne parle pas du
tout
du sportif.
Oui, voilà, c'est exactement... même pas lu cette interview, mais c'est exactement ce que je disais, c'est que on a une stratégie purement business. On a un club, ce qui est très louable, de Lyon, qui a décidé d'être propriétaire de son stade. Nous, à Saint-Etienne, ça a été évoqué cette semaine dans la presse, et ça sera d'ailleurs, ça serait très bien. Mais voilà, Lyon qui s'est endetté énormément avec son stade des Lumières, qui doit maintenant, à un moment donné, trouver du financement, bah, pour rembourser les banques, peut-être du naming aussi. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place du côté de Lyon, parce qu'il faut aussi penser. Eolas est un très bon gestionnaire, donc je me fais pas de soucis pour lui. Hein.
Et d'ailleurs, Jean-Michel Eolas avait dit petit à petit, on va arriver à concurrencer les grands clubs européens, sauf le Paris Saint-Germain. Et en parlant du naming, il tarde à se concrétiser le naming du Parc OL. Cette arrivée des investisseurs chinois peut-elle avoir un impact justement sur le processus? On sait qu'Eolas négocie avec Fiducial notamment, mais pour l'heure, il n'y a pas d'accord financier, c'est en dessous des prétentions de l'Olympique Lyonnais, et Lyon ne veut pas, je cite, Aulas bradé le naming comme l'OM avec Orange pour le Vélodrome. Petit tac là à nos amis olympiens au passage.
Ouais, exactement, le Vélodrome qui porte désormais donc, le nom de Orange Vélodrome. Mais Lyon, oui, Aulas, je pense que dans son budget, dans son planning entre guillemets, il avait prévu un naming, mais on voit que les offres ne sont pas du tout à la hauteur de ce qu'il attendait et ça lui pose sans doute des soucis financiers. Mais aussi maintenant, en 2016, quelle marque est prête à investir la somme qui, je ne sais pas quelle est la somme, mais oui, c'est une somme astronomique. Quelle marque est prête à investir cette somme-là? On voit qu'en plus, moi, ça me fait penser à cette histoire au club, au MMA au Mans.
Le MMA Arena.
Voilà, MMA Arena, le stade tout neuf du Mans et puis le club qui n'existe plus. Donc, voilà.
C'est ça, ils n'étaient pas très assurés.
Voilà, oui, voilà, bien vu Julien.
Et il est 20h55, de son côté, la SS va devoir assurer des certitudes pour se tourner vers les phases de poule de l'Europa League et va devoir donc se tourner vers Israël pour entretenir ses ambitions européennes. Mercredi, les Verts vont affronter le Beitar Jérusalem, un match compliqué à négocier, il va falloir rester éveillé. Eh oui, la franco-israélienne le dit bien, are we awake, est-ce qu'on est bien éveillé? Les Verts se posent la question et ils se déplacent mercredi à 8h heure française, 19h heure d'Israël à Jérusalem pour affronter le Beitar, 3e du dernier championnat local. Pour ce barrage d'Europa League, les Verts sont en position de force, Quentin, mine de rien.
Oui, alors toujours pareil, on va dire que c'est un bon tirage, mais comme j'aime le dire, on pourra dire que c'est un bon tirage quand on sera qualifié. Voilà, hein, parce que comme on avait l'exemple de Lille, on en parlait tout à l'heure, Lille avait dû se dire pareil, c'est un bon tirage, cette équipe d'Azerbaïdjan, et puis finalement ils se sont fait sortir. Donc voilà, à voir après. Après, bon, faut être honnête, on est favori, c'est une équipe... potentiellement, enfin en tout cas assez faible. C'est vrai qu'on a plus tremblé quand on a eu le nom de l'AEK Athènes qui est sorti, hein, au tour précédent. Là, on va quand même relativiser. On va aussi être optimiste parce qu'il y a des retours. Il y a Lemoine et Roux qui n'ont pas joué à Bordeaux samedi, qui, je pense, seront titulaires sur ce match de Coupe d'Europe à l'extérieur. Après, ça fait quand même ça va faire trois déplacements consécutifs. Puisque même 4 déplacements consécutifs, parce qu'on a joué à Athènes, on a été joué en Autriche, on a été joué à Bordeaux, et là on va jouer à Jérusalem. Donc ça fait quand même 4 déplacements, bon, en début de saison, mais je pense qu'aussi il y a peut-être de la fatigue qui s'installe avec ces déplacements.
Et la fraîcheur de Lemoine et Roux va certainement compter.
Compter, peut-être, voilà. Mais en tout cas, ça fait quand même pas mal de déplacements sur ce début de saison.
Et dans le groupe, on a vu qu'il n'y avait pas Molo, on en a parlé. Il n'y aura pas Cheikh Mbengue et Brian Dabo puisqu'ils sont blessés. Et il n'y aura pas non plus Alexander Söderlund. Il est buteur contre Bordeaux, mais manifestement, il n'est pas retenu.
Et oui, alors est-ce que c'est une nouvelle blessure encore une fois, ces adducteurs qui le gênent, comme on le sait depuis le début de la saison? C'est vrai qu'il a fait 10 minutes encourageantes, c'est vrai qu'il est rentré à Bordeaux dans une période où les Verts poussaient. Il a marqué un but de la tête sur corner. Donc c'est dommage. Puis on voit surtout que... Bah que pour le moment, moi c'est ça aussi qui m'a frappé à Bordeaux, si on revient juste deux minutes là-dessus, sur le groupe à Bordeaux, sur le niveau offensivement, sur le banc, on n'avait que deux joueurs offensifs qui étaient Mone Paquet et Söderlund. Je trouve que c'est quand même assez faible quand on a des prétentions d'aller gagner l'extérieur. Hein.
Justement, Mone Paquet peut-il être titulaire lors de ce match?
Mone Paquet, l'expérience en tout cas, hein, c'est vrai qu'il a quand même beaucoup joué l'année dernière. Galtier pour l'instant le met pas titulaire. Amouma et Talan ont beaucoup joué sur ce début de saison. Peut-être que Mone Paquet sera titulaire sur ce premier match, sur ce match aller.
Et un jeune élément comme Dylan Saint-Louis peut-il avoir sa chance? On rappelle quand même que c'est un match très compliqué à jouer, oui, dans un contexte un peu particulier.
Voilà, sur une ambiance assez chaude. Honnêtement, je suis assez clair. Je pense que sur une double confrontation européenne, je vois pas comment Dylan Saint-Louis pourrait jouer. D'ailleurs, je suis surpris qu'il soit dans le groupe, puisqu'il est en instance de départ. Il avait même annoncé lui-même sur son Instagram qu'il allait partir. Bon, visiblement, c'est toujours pas fait. Ça, c'est les jeunes joueurs qui parlent avant que ce soit fait. Mais je suis étonné qu'ils soient dans le groupe. Alors, est-ce que c'est parce que Galtier manque d'atouts offensifs avec les blessures? En tout cas, il est présent. C'est assez étonnant.
Et on va un petit peu parler du contexte, il nous reste quelques secondes dans cette mi-temps verte. Seulement 150 supporters feront le déplacement. On espère qu'ils seront bien éveillés, comme dirait Tal, car en Israël, c'est le feu. Outre le contexte de guerre sempiternelle contre la Palestine, il y a aussi une défiance vis-à-vis de la communauté arabe de la part d'un groupe ultranationaliste. On en a parlé la semaine dernière dans cette émission. Ça rappelle le contexte du match Al-Vif face au Dnipro.
Oui, c'est ça, va falloir être très dur, mais je pense que les joueurs, visiblement, dans dans les interviews qu'ils ont fait, ont l'air de faire abstraction de ça et de pas s'en intéresser, donc c'est très bien et je pense qu'on a l'expérience, les Stéphanois commencent à avoir l'expérience européenne là-dessus, donc je ne fais pas de soucis.
C'est déjà la fin de cette émission, merci Quentin Despal d'avoir répondu à notre invitation. Bonne chance.
Merci Julien, merci de ton invitation et au plaisir, j'espère.
Avec plaisir, à bientôt dans la mi-temps verte. La musique revient tout de suite, c'est In the Mood for Jazz sur RVR. Puis nous, on se retrouve demain pour 11 réveils en musique dès 7h en direct, bien sûr, sur l'antenne de la radio qui vous ressemble. À la semaine prochaine pour parler des verts sur RVR dans la mi-temps verte. Salut à tous, salut Quentin.
Salut Julien, salut à tous, à bientôt.